Pendant la pandémie, de nombreuses initiatives ont été mises sur pied pour accueillir toute personne en situation d'itinérance qui avait besoin d'un hébergement ou d'un lieu pour se déposer. Ces endroits se voulaient le moins restrictifs possible et adoptaient des pratiques inclusives de façon à ne laisser personne derrière, dehors. Absence de règlements trop stricts, ouverture à accueillir des personnes en état d'intoxication, tolérance de la consommation à l'intérieur même du refuge, tolérance de la présence d'animaux de compagnie, tolérance plus grande face à des comportements dérangeants, etc. Lorsqu'il est question de cette façon de faire, certains réfèrent à des milieux à bas seuil d'accessibilité ou au seuil de tolérance. Toutefois, dans tous les cas, l'objectif est d'arriver à refuser ou exclure le moins de personnes possible. D'ailleurs, il est commun pour des organismes œuvrant en itinérance de mettre en place ces pratiques. Suite à la pandémie, durant laquelle l'augmentation de ce type de pratique est frappante, nous avons pensé créer un espace d'échange concernant celle-ci. Nous nous intéressons également aux réflexions que vous portez en lien avec ces pratiques qui favorisent la tolérance et l'inclusion. Aujourd'hui, on voulait vraiment se décoller le nez de la photo, le nez de la pandémie, prendre un pas de recul, puis de resituer ces réflexions-là dans un contexte qui se veut historique. Donc, d'où la raison pourquoi vous avez été approché, parce que vous avez une... ça fait longtemps que vous avez ces réflexions-là. Donc, on voulait un partage à cet égard-là. Puis aussi pour répondre à un enjeu de transmission des connaissances, des pratiques, des savoirs dans le milieu communautaire en itinérance. On n'a pas fait de recherche exhaustive à cet égard-là, mais on sentait que des fois, il manquait d'espace de transmission. Donc aujourd'hui, ça se veut aussi un moment où est-ce qu'on va pouvoir actualiser une transmission là, des initiatives qui ont été faites ou des réflexions qui ont été portées. Donc, pour la suite, ce que je pourrais faire, c'est à tour de rôle, vous inviter à vous présenter brièvement peut-être votre nom, nom de famille, peut-être le nombre d'années que vous considérez que vous êtes dans le domaine de l'itinérance et actuellement ce qui vous occupe encore, là, qui touche un peu à ce domaine-là, très succinctement. Par la suite, je vais donner la parole à Guylaine pour aller un peu plus loin dans cette présentation-là, parce que l'objectif, c'est de savoir que les autres interlocuteurs, interlocutrices, participantes à la rencontre d'aujourd'hui sachent qui sont les autres qui sont autour de la table. Donc, c'est vraiment pour nous, là, plus que dans la réflexion pour plus tard. Donc, je pourrais commencer par l'ordre des caméras. Ah, ben, justement, Michel. Ah, ben, Michel Simard, parce qu'on a deux Michel aujourd'hui. Hein.
Commence par moi.
Allons-y. Oui.
OK. Bon, alors, Michel Simard, ça fait presque 40 ans bientôt, là, finalement, en remontant jusqu'en arrière. Travailler beaucoup autour de la question des refuges et des hébergements d'urgence, mais aussi les centres de jour, travail de rue, logement, travail, politique, réseau de solidarité et itinérance, puis plein d'autres choses. Et j'accompagne actuellement, disons depuis peut-être 4 ans, les intervenantes et directions du YWCA à Québec, qui accueille des femmes itinérantes. J'accompagne aussi des intervenants, là, des équipes de différentes régions. Et je suis toujours en lien avec des gens que j'ai accompagnés durant bien, bien des années. Puis on est resté proches. Alors, on se donne des nouvelles. Voilà, ça donne rapidement.
Merci. Je passerai la balle peut-être à Marie-Noël.
Bonjour tout le monde. Alors, mon nom, Marie-Noël Espérance. J'ai commencé à donner l'intervention il y a environ 20 ans, à être auprès des personnes en situation de marginalité ou de grande précarité. Et depuis les 15 dernières années, je me concentre au Centre-Ville de Montréal dans des organismes dédiés à l'itinérance, donc en itinérance jeunesse, et également auprès de populations vulnérables. Ça m'a amené donc à travailler au collectif d'intervention par les pairs, qu'aujourd'hui on connaît sous le nom du GIAP, à Cactus Montréal, en marge d'Ouvre 17 et maintenant je suis dans la rue.
Merci Marie-Noëlle. On pourrait suivre avec, allons-y avec Geneviève.
Allô tout le monde. Geneviève Quinté, moi je suis de Québec, donc je suis à la direction du projet intervention prostitution à Québec, donc dans le milieu communautaire depuis déjà presque 30 ans, j'ai commencé à 20 ans comme travailleuse de rue, donc en contact avec l'itinérance depuis toujours, parce que au début de ma pratique, c'était beaucoup près des femmes exerçant la prostitution sur la rue. Aujourd'hui, le PPQ est responsable, a ouvert un local d'accueil au centre-ville de Québec. Là, on a ouvert ça en catastrophe à la demande du CIUS. Donc, j'avais rien à faire. Je dis, on va ouvrir un local. non, mais vraiment, c'est un beau projet. Donc, j'aurai l'occasion plus tard là, de vous en parler. Merci.
Merci Geneviève. Continuons avec Michel Saint-Gelais.
Bonjour tout le monde. Alors, Michel Saint-Gelais, je suis directeur général de la maison d'accueil pour sans-abri de Chicoutimi depuis 5-6 ans environ. Ça fait tout proche de 17 ans que je suis dans l'intervention communautaire. Au départ, c'était vraiment avec les personnes en situation d'itinérance à la maison d'accueil pour sans-abri. Ensuite, un séjour de quelques années, 5-6 ans, en travail de rue, entre autres en milieu rural, aussi au centre-ville, dans des projets d'intervention en milieu de détention, en psychiatrie, pour aller vraiment à la rencontre des personnes qui étaient vulnérables en situation d'itinérance pour les accompagner vers les bonnes ressources et ensuite faire tout l'accompagnement qui s'ensuit pour la réinsertion, la prévention d'un retour en itinérance. Donc, c'est ma pratique, toujours dans ce domaine, avec des jeunes, des moins jeunes, des hommes, des femmes, une clientèle qui est en mouvement, des problématiques qui évoluent là, dans le temps, dans la communauté aussi. Donc, on en est là. Je ne suis pas un expert en rien, mais j'ai quand même quelques années avec nos personnes en situation d'itinérance. Ça me tient beaucoup, beaucoup à cœur.
Un grand merci, Michel. Et pour conclure cette ronde de présentation-là, après, on pourra rentrer dans le vif du sujet. J'inviterai Madame Labelle, France.
Oui, bonjour. Alors, moi, j'arrive on s'en rappelle quasiment plus. Donc, j'ai commencé dans le milieu de l'enseignement auprès d'adolescents. Ensuite, j'ai fait un court passage en centre jeunesse. Moi, je suis psychoéducatrice de formation. Puis, des centres jeunesse, malgré le fait que j'ai côtoyé des personnes très intéressantes, là, puis j'ai eu une bonne base de dans ma formation, mais ça ne me convenait pas vraiment là, comme approche. Là, on parle des années 80. Alors, je suis passée dans le réseau communautaire en 86. Puis j'ai été 6 ans et demi aux Maisons de l'Ancre, qui est une maison pour femmes en difficulté. Donc, il y avait l'hébergement, il y avait aussi, à l'époque, des appartements supervisés. Et puis, pendant que j'étais à la Maison de l'Ancre, j'ai commencé à m'impliquer au RAPSIM. Donc, au fil des ans, j'ai toujours été très impliquée au RAPSIM sur divers comités ou conseils d'administration ou différentes affaires ad hoc, dont le projet de création d'une ressource pour jeunes sans-abri qui s'est appelé finalement le refuge des jeunes. Donc, j'ai collaboré à la création du refuge des jeunes en 88. Alors, donc, il y a toujours eu un volet d'intervention. Les premières années, j'étais beaucoup, beaucoup sur le plancher. En 99, on a développé des logements sociaux avec soutien communautaire. Donc, on est passé de 6 logements à 22 maintenant. Dans un autre quartier, le refuge d'urgence, et dans le centre-ville de Montréal, sur la rue Sainte-Catherine, là, près du métro Papineau. Puis nos logements sociaux sont dans Hochelaga-Maisonneuve, donc dans l'est de la ville. Et puis aussi, j'ai travaillé en parallèle sur toutes les questions liées à la judiciarisation, la politique, le développement d'une politique en itinérance. Et c'est, donc, ça a été une de mes préoccupations puis toute la question de la judiciarisation, là, les contraventions, tout ça. Donc, on a fait beaucoup de travail là-dessus. Alors, voilà, on est rendu là. Donc, à la direction du refuge, ça va faire 30 ans cet été. Donc, le 2 juin, j'ai posé pied dans le sous-sol de l'église Saint-Louis-de-France, dans les moisissures, et puis j'ai éternué pendant 21 ans.
Excellent, merci tout le monde. Je trouve que ça met bien la table. Pour la suite, je laisserai Guylaine, qui va s'occuper de l'animation, se présenter. Et à partir de maintenant, là, nous sommes entre ses mains. Donc, je vous laisse toute la place pour la suite. Merci tout le monde.
Bien, bonjour tout le monde. Comme je disais, je suis pas mal honorée, même un peu émue de participer à cette rencontre. Parce que moi, j'ai disparu du champ de l'itinérance pendant 20 ans. Quand je pense à mes débuts, j'ai ouvert l'Auberge Madeleine en 1984, après un stage à la Maison Marguerite pendant l'été, pendant mon stage comme travailleuse sociale, et avec Jacques Lorrain, qui était au RAPSIM à l'époque, comme superviseur. Fait que j'ai fait 5 ans à l'Auberge Madeleine. Ça a été le projet pour moi. Je pense qu'il a été fondateur dans tout ce que j'ai développé après. Et j'ai travaillé, quand j'ai quitté, j'ai mal tourné par ailleurs parce que je suis retournée étudier, puis j'ai fini prof à l'Université de Montréal. Fait que je sais, là, ça, c'est pas un parcours très... Mais entre-temps, c'est ça, j'avais continué à travailler en itinérance les premières années. J'ai travaillé, entre autres, ce qui m'intéressait beaucoup, c'était les savoirs d'expérience des intervenantes qui travaillaient dans le champ d'itinérance, donc ce qu'elles apprenaient sur le tas. Puis si on se rapporte à ces années-là, c'était pas très à la mode de parler de ça là, dans les années 90, les savoirs d'expérience. J'ai travaillé aussi auprès des réfugiés. Et là, c'est pas la place, là, mais le fait d'être sans statut dans la vie, peu importe où, il y avait vraiment des liens. Et je suis revenue en itinérance après ma retraite, parce que là, je suis retraitée depuis 2019. Et pendant la pandémie, je suis retournée travailler sur un projet de recherche, les impacts de la COVID sur les ressources en itinérance. Et ça refait comme une boucle dans ma vie, de là à ma présence aujourd'hui. Et quand on échangeait avec Alain, Boromir, Stéphanie, il y avait quelque chose qui m'avait beaucoup frappée quand je suis revenue, donc après une disparition de bien des années, c'est d'entendre parler de refuge à Bosseuil. C'est un vocabulaire, je n'avais jamais entendu ça quand j'étais en itinérance, il y a presque un peu comme vous, il y a 35 ans, disons, et ou du haut seuil. En tout cas, j'étais vraiment perdue dans les termes au début. Là, il a fallu que je me fasse un petit peu de rééducation. Et là, on parlait aussi beaucoup encore des gens à qui, justement, on doit mettre le moins de critères possible pour les accueillir, etc. Et au début, j'étais un peu gênée parce que je ne voulais pas avoir l'air de la vieille madame qui disait « mais dans notre temps, il y en avait aussi ». Mais à un moment donné, j'ai commencé à trouver qu'il y avait peut-être des réflexions à faire à ce sujet-là. Fait que c'est un petit peu pour ça aujourd'hui que je suis avec vous. Je vais avoir plus un rôle d'animatrice et non pas, je ne suis pas ici là, comme la madame qui a travaillé en itinérance de 1984 à 1991, mais plus pour vous faire un voyage dans le temps. Et donc, d'une certaine façon, vous demandez peut-être de décoller un petit peu de où on est maintenant, puis comme disait Boromir, de prendre une distance par rapport à la pandémie aussi, pour peut-être revenir à quand vous étiez justement dans les années 80, les années 90, dans vos expériences réciproques. Qu'est-ce qui était à ce moment-là des personnes qui vivaient de l'exclusion, pour qui c'était difficile d'avoir accès aux services qui existaient à ce moment-là? Donc, c'était qu'est-ce qui faisait qu'on refusait, si vous voulez, quelqu'un, ou qu'on ne pouvait pas l'accompagner, ou on pouvait, ou les gens étaient, on leur demandait de quitter. Pourquoi donc ces personnes étaient, entendons-nous sur le thème exclus, là, même si ce n'est probablement pas le bon. Alors, j'aimerais ça peut-être faire comme un petit tour de table quand on parlait à ce moment-là de personnes. Moi, je reviens à des thèmes d'il y a 35 ans, fait que pardonnez-moi, là. Mais réfractaires, ceux qui ne veulent pas s'aider, En tout cas, il y en avait de tout. Et j'aimerais vous entendre sur, dans vos expériences, c'était qui à l'époque, ces personnes-là? Quelles étaient les situations qui revenaient? Je ne sais pas qui voudrait se lancer. Michel Simard, à cause du Zoom, je ne vois pas ton écran. Donc, si jamais tu veux, si tu peux...
Qu'est-ce qui se passe-t-il?
Non, je te vois, je vois, mais il y a quelque chose qui bloque, que je ne peux pas te voir. Ah, là, ça va mieux. OK, parfait.
Ça va mieux?
Oui, fait que, avec la petite main, là, tout devrait être beau. Mais est-ce que quelqu'un veut se lancer? France, tu as parlé en dernier, je te laisserai aller. Tu sais.
OK. c'est sûr que moi, je vais focusser plus jeune. Là. Si on retourne dans les années 80, on avait fait il existait des maisons d'hébergement à Montréal qui accueillaient des jeunes de 18-30 ans, jeunes garçons, jeunes filles. À l'époque, c'était massivement des jeunes qui sortaient des centres jeunesse. Et il n'y avait pas d'accueil d'urgence comme tel. Fait qu'ils sortaient des centres jeunesse, pouvaient aller en maison d'hébergement. Mais ceux qui n'étaient pas, on parlait de démarche en démarche, on ne parlait pas de projet de vie encore à ce moment-là. Donc, ceux qui n'étaient pas en démarche, bien, il n'y avait pas de lieu. Donc, ça veut dire, des jeunes, par exemple, qui étaient sans revenus, qui n'étaient pas dans un programme d'insertion, qui ne travaillaient pas, puis qui n'étaient pas nécessairement, ou qui consommaient activement, donc, qui n'étaient pas admissibles à ces maisons d'hébergement-là. Fait que ça a été un des premiers constats. Puis déjà, en 1982, 83, 84, déjà les grands refuges avaient commencé, dont la Maison du Père, surtout, qui était membre du RAPSIM, à réfléchir sur la question des jeunes qui étaient accueillis dans leurs ressources, dans du court terme, là, dans les... Puis pour qui il n'y avait pas d'autres types de ressources plus spécifiques à leurs besoins. Donc, ils étaient mélangés avec les plus vieux, ceux qu'on appelait jadis dans les années 70 les clochards du bois de la ville. C'était sympathique hein, comme appellation. Alors, il y avait une réflexion. Déjà, les intervenants du RAPSIM et de la Maison du Père disaient que ça prendrait une ressource. Et à cette époque-là, on ne parlait ni de bas-seuil ni de haut-seuil, on parlait d'inconditionnalité. Donc, un accueil inconditionnel. Puis, de 84 à 85. Et moi, quand je suis arrivée en 86, donc je me suis joint à ce comité-là. Puis dans ce temps-là, dans le vocabulaire, on parlait d'itinérants, jeunes itinérants. Les itinérants, jeunes itinérants, les itinérants. Donc là, c'était dans le vocabulaire. Alors, le comité jeunes itinérants. Alors, moi, je me suis inscrite dans ce courant-là. Il n'était pas question de... Fait qu'à partir de ceux qui n'étaient pas admissibles, à partir de ce constat-là, on avait identifié à peu près 200 à 300 jeunes qui gravitaient là, ça et là, qui passaient une ou deux nuits dehors, tout ça. On avait travaillé aussi avec les gens des maisons d'hébergement, puis on avait essayé de dessiner un petit profil, on avait fait des consultations des jeunes, on leur avait demandé qu'est-ce qu'ils souhaitaient. Alors donc, ils souhaitaient un lieu pour se poser, pour se reposer, pas trop de règlements, des horaires plus souples, plus flexibles, parce qu'il fallait entrer... très tôt hein, pour réserver sa place. Puis, il ne voulait pas que ça soit trop gros. Il ne voulait pas que ça soit trop gros. Il ne voulait pas être mélangé avec tout le monde. Donc, il nous a aidé à dessiner un espèce de lieu. Ce n'était pas clair encore à ce moment-là qu'il voulait des intervenants. Puis, quand on s'adresse à des jeunes, bien, ils sont souvent ambivalents. Ils veulent des règles, ils n'en veulent pas. Ils veulent des intervenants, ils n'en veulent pas. Puis, tout au long de mon parcours, je vais en reparler tantôt, c'est apparu ça, là, quand on leur demande qu'est-ce qu'ils veulent, qu'est-ce qu'ils ne veulent pas. Puis, il y a toujours ça, un peu assez, pas trop. Puis, bon, tu sais. C'est comme ça, c'est à partir du fait qu'ils ne pouvaient pas être admissibles en maison d'hébergement parce qu'ils n'étaient pas prêts. Puis dans les grands refuges, avec les plus vieux, tout ça, ça convenait moins, c'était préoccupant. Puis déjà, les intervenants se rendaient compte que ça prendrait peut-être quelque chose de plus spécifique là, pour les gens. Là, la dernière consultation, c'était, on fait-tu un mix jeune femme, jeune homme? Il était question de 18-30. Nos consultations, à majorité, ils ne voulaient pas être avec les filles, puis les filles ne voulaient pas être avec les gars. Quelques exceptions près. Il y avait des questions de sécurité. Il y en a qui disaient, ben moi, je ne veux pas me retrouver avec mon pimp ou mon ancien. Fait que, donc, majoritairement, ils ne voulaient pas être ensemble. Puis, à ce moment-là, on identifiait un tiers, deux tiers. Il y avait beaucoup moins de jeunes femmes à cette époque-là et de moins jeunes. Donc, fait que c'est comme ça là, que la patente, à partir de l'identification d'un manque, et qui s'est transformé en besoin. Et voilà. Merci. Inconditionnel, c'était le mot.
On pourrait poursuivre avec cette idée-là, justement, de même dans cet accueil inconditionnel, est-ce qu'il y a des gens que vous n'étiez pas en mesure d'accueillir? Je ne sais pas si quelqu'un d'autre pourrait prendre la réponse, même en ayant cette volonté d'accueil inconditionnel. Est-ce que ça arrivait qu'il y avait du monde avec qui, non, vous ne pouviez pas garder la personne hébergée?
Ça arrive partout.
C'est ça. Mais un peu, tu sais, comprendre quelles étaient ces situations-là. Je ne sais pas si quelqu'un veut prendre la relève de France, même si elle pourra ensuite pour répondre à cette question.
Je peux en dire un petit bout.
Vas-y, Michel, merci.
Moi, c'est... on est fin des années 80, début des années 90, puis je commence à travailler dans un refuge, en fait, qu'on a créé pour les sans-abri, mais on est à Trois-Rivières, donc c'est les hommes sans-abri. Le modèle, c'est des hommes qui ont des problèmes d'alcoolisme, toxicomanie, des problèmes de jeu, une sorte d'addiction. C'est un peu la catégorie des clochards, mais un peu plus modernisée, mais c'est ça qui est dans le parcours. Les gens qui sortent de prison, puis qui viennent pour passer l'hiver, tu sais, ils essayent de passer l'hiver au chaud. Moi, j'ai ça dans la tête, comme à peu près tout le monde qui est dans cet environnement-là, à cette époque-là. Et nous, la ressource a été, un des membres fondateurs, c'est le chef de police de la ville de Trois-Rivières. Parce qu'il commence à avoir des gens, puis il est obligé de les garder en cellule, bien, c'était un peu compliqué. Donc, on a créé une ressource et ça a commencé comme ça. Et moi, quand j'ai commencé à travailler, j'accueillais les gens, tous les gens qui venaient. Et parmi ces gens-là, je me suis rendu compte qu'il y avait des gens qui avaient des problèmes graves de santé mentale. C'était pas l'anxiété parce qu'il n'avait pas consommé, là. C'est qu'il était complètement halluciné, complètement perdu. Et moi, ma réaction, c'est de dire, bon, ben, faut que je l'amène à l'hôpital, tu vois. Et là, à l'hôpital, de me rendre compte que, ben non, tu sais, nous, on regarde pas ça ici, tu sais, il est pas prêt, même, juste passer le triage, il passait pas, là, tu sais, c'était trop compliqué. Et alors, je me suis dit, bon, ben, je vais le référer dans une ressource en santé mentale, tu sais, dans le milieu communautaire, ils vont pouvoir le prendre en charge. Et là, ils m'ont dit clairement qu'ils ne pouvaient pas s'occuper de gens comme ça parce que ça désorganisait tout leur milieu de vie. Tu sais, bon. Alors là, je me suis dit, bon, ben, que j'étais en contact avec des gens qui mènent, disons, des luttes, tu sais, sur la politique sociale, puis il me disait, ben, tu sais, c'est pas à toi à t'occuper de ces gens-là, parce que tu fais le travail de l'État qui est en train de se désengager. J'ai dit, c'est bien intéressant, mais j'ai dit, moi, il s'appelle Joseph, puis je vais-tu le mettre sur un lampadaire sur le coin de la rue? Tu sais, bon, ça a commencé comme ça, là. Tu sais, que l'exclusion, ça commence pas dans les services, ça commence dans la société. Et là, mon combat, ça a été de dire, bon, ben, parce que mon conseil d'administration disait la même affaire. C'est pas à nous de s'occuper de ces gens-là, ils sont malades. T'sais. C'est à l'hôpital de s'occuper d'eux autres. J'avais bien raison, ça, le problème, c'est que ça ne marche pas. Là. Et bon, finalement, je fais une histoire courte. Et peut-être raconter une autre petite anecdote. Et peut-être pour dire que la question de l'exclusion, on la centre beaucoup sur la pratique des intervenants. À mon avis, c'est comme regarder avec des ornières. parce que l'exclusion, ça commence beaucoup plus large. J'étais dans une rencontre de groupe avec des ressources en santé mentale. Puis, j'avais été invité. Et on parlait de ça, tu sais. Puis, et là, il y a une femme qui prend la parole, qui est une directrice d'un organisme, qui dit à tout le monde, ben, écoutez, eux autres, c'est pas des gens en santé mentale, c'est des itinérants. Moi, ça a vraiment allumé. C'est là que j'ai compris que les mots ont de l'importance, tu sais, et que le mot itinérant, c'est une catégorie d'exclusion. Et quand tu portes cette identité-là et que tu rentres dedans, ben, tu t'enfermes dans un monde où il n'y a pas d'issue. Tu sais. Alors, ce qui fait que moi, j'ai commencé à parler plus de rupture sociale, puis de désaffiliation. De dire, bon, ben, tu sais, tout le monde, peu importe la problématique dans laquelle il peut vivre, lui, comme personne, ben, aujourd'hui, toute personne vulnérable est à risque de rupture sociale et de désaffiliation. Et, bon, enfin, ça m'a amené, je ne vais pas prendre plus de temps, mais moi, à revoir complètement la pratique et l'organisation des services, surtout dans le contexte de l'hébergement là, d'urgence des personnes.
Merci Michel, je vais prendre une note parce qu'on va revenir justement à quelles pratiques on a développées, mais avant qu'on arrive, j'aimerais ça entendre les autres, et je ferai juste un court aparté. Quand je travaillais à l'Auberge Madeleine, il y avait dans le Journal de Montréal un article sur les femmes itinérantes, et je déjeunais avec les femmes, puis il regardait ça avec moi, puis une avait dit, « Hey, Guylaine, il y en a-tu des itinérantes à Montréal? Hein? » Alors, donc, ça, c'est exactement, je pense qu'il y a un lien avec ce que tu viens de dire. Toi, tu introduis aussi la question de la désinse. France a introduit la question de l'accueil inconditionnel. Un accueil inconditionnel, pas toujours simple, si je comprends bien. Est-ce que quelqu'un d'autre aimerait... faire du pouce sur ce que vos collègues racontent. Michel Saint-Gelais?
Peut-être amener un aspect, je vais retourner un petit peu moins loin dans le temps. On parle quand même d'une situation en région, à Chicoutimi à l'époque, fin des années 80, le filet social pour les personnes qui étaient en situation de problématique. On ne parle pas nécessairement de situation d'itinérance à ce moment-là parce que les personnes ne se définissaient pas comme des personnes itinérantes. Hein. C'est un phénomène qui n'existait pas chez nous. Les paroisses, les prêtres étaient de plus en plus sollicités par des personnes qui étaient en rupture. Familiale dans une époque où ce n'était pas simple de se séparer, des pertes d'emploi, des problématiques surtout en lien avec l'alcool. On dirait que les drogues n'étaient pas encore tout à fait arrivées chez nous. En 1991, ce prêtre-là, en tout cas notre fondateur, Mgr Léonce Bouchard, avec des partenaires du milieu, avec des partenaires du centre-ville, qui voyaient de plus en plus des gens qui semblaient avoir besoin d'aide, ont fondé la première maison d'accueil pour sans-abri de Chicoutimi en 1991, où il n'y avait pas la reconnaissance tant formelle que ça de la problématique. Donc, ça a commencé tout petit, puis ça a surtout commencé par « pas dans ma cour ». De 1991 à 1998, la maison d'accueil a déménagé 4 fois pour se dire « mais pas chez nous, pas chez nous, pas chez nous ». En 1991, c'est vraiment installé, en 1998, c'est installé au centre-ville de Chicoutimi, où encore à ce moment-là, c'était relativement... à petite échelle. Il n'y avait pas de facteur d'exclusion. Il n'y avait pas non plus une grande équipe de professionnels à ce moment-là. On parlait de bénévolat, de gens qui étaient avec la cause, avec le cœur, où en 1991, 92, 93, là, tout s'est mis en place un peu pour répondre à ces besoins-là. Où, oui, on avait une maison d'accueil, mais comment nourrir ces gens-là? On va fonder une soupe populaire. Comment les habiller? On va fonder une friperie. Comment les remettre au travail? Parce que l'objectif à cette époque-là, c'était souvent le retour en emploi. Donc, un atelier de récupération de meubles usagés pour faire participer les utilisateurs de la maison. Dans ces années-là, c'était mixte, hommes-femmes. Cependant, il n'y avait à peu près pas de femmes qui fréquentaient les services de la maison d'accueil à ce moment-là. On voyait des gens qui, oui, la désinstitutionnalisation des gens qui étaient laissés sans service parce qu'effectivement, au niveau des soins de santé, la problématique était, était difficile parce qu'on ne se reconnaissait pas nécessairement comme malade. On ne voulait pas nécessairement aller chercher le diagnostic à cette époque-là. Puis il faut se mettre dans le contexte que les équipes étaient des bénévoles, étaient des gens qui essayaient du mieux qu'ils peuvent d'accompagner les personnes dans leur plan de réinsertion. C'est un beau cadre, un cadre qui était très ouvert, qui était très accueillant. La maison d'accueil pour sans-abri de Chicoutimi, c'était vraiment l'accueil. Là où il y a eu des problématiques, c'est pour sans-abri de Chicoutimi. Les gens ne s'y reconnaissaient pas. Puis jusque, je dirais, en 2013, 2014, ça a été toujours difficile. Les gens ne se voient pas comme des personnes sans-abri itinérantes. On parle souvent de sans-domicile fixe en région, puis la problématique, elle était peu visible. À partir de 2014-2015, la visibilité de la problématique est apparue beaucoup plus auprès de nos populations, de nos concitoyens. Et là, ben, est apparue la catégorisation peut-être des gens où on a eu de plus en plus de difficultés à s'inscrire dans une approche d'un plan d'intervention, une approche thérapeutique, parce qu'on se renvoie la balle d'un bord et de l'autre. Puis autour de tout ça, parce que je vais finir rapidement, l'aspect régional, l'aspect local, l'aspect que l'intimité, la confidentialité n'existe pas chez nous. Où il y a plein de personnes qui ont été reconnues comme en situation problématique parce que les bénévoles, la soupe populaire, c'est un oncle, c'est un cousin, c'est une tante. Je ne veux pas dire qu'on est des co-sanguins au Saguenay, ce n'est pas vrai, mais il y a cette approche-là où de quêter sur le bord de la caisse, c'était pas beaucoup, beaucoup, beaucoup caché. La problématique était vraiment d'aller rejoindre ces personnes-là puis leur demander finalement de créer un lien puis d'aller vers les services existants. Notre souhait a été répondu. Notre maison ne fait que déborder, ne fait que tenter de s'agrandir et on voit que les problématiques sont de plus en plus complexes. Alors, on a pris un virage professionnel intervenant, c'est bien, mais pour l'accès aux services, pour la reconnaissance des problématiques, ce n'est pas toujours simple dans notre maison. Je vous dirais que dans les dernières années, par rapport aux problématiques, par rapport à la professionnalisation des intervenants, certains dangers, certains critères d'exclusion semblaient vouloir apparaître, semblaient vouloir diriger ailleurs que chez nous. On fait attention, on a repris un virage d'inclusion, un virage où on accueille des personnes, on n'accueille pas des itinérants, on accueille des êtres humains qui ont des problématiques. Et depuis quelques années, en tout cas, ben on ne fournit plus. Le réseau n'est pas capable de nous accueillir autant, n'est pas capable de nous offrir les leviers qu'on aurait besoin tout le temps. On vit beaucoup une approche par problématique encore dans nos réseaux, malgré qu'on se veut le contraire. Alors, nos personnes arrivent dans des situations de plus en plus complexes, de plus en plus de problématiques associées. Si on ne parlait que d'itinérance, ce serait fort simple. C'est tout ce qui est autour, tout ce qui entraîne. Puis maintenant, ben, la mixité est de plus en plus difficile à vivre, parce qu'il y a de plus en plus de femmes en situation d'itinérance qui s'affichent, qui deviennent visibles. Et là, ben, il y a une problématique dans la mixité également. On est parti petit, on est de plus en plus gros. La question qu'on se pose, c'est mais à quel moment on va fermer le robinet ou du moins réduire un peu la fabrication, je ne sais pas dans quel terme le dire, mais il faut être appuyé plus haut dans la prévention, dans l'accueil. Notre maison d'accueil n'est plus qu'une maison où on offre de l'hébergement. On est vraiment dans un processus d'accompagnement, de réinsertion et de multi-problématiques. Donc, on a commencé un peu en retard, nous, fin des années 80, mais c'est normal. Il y a la distance, il y a le parc de Laurentides. Et maintenant, bien, on le dit à nos populations, à nos concitoyens, on vit les mêmes choses que partout ailleurs en proportion de notre population et c'est normal qu'on ait des seringues, qu'on ait de la prostitution, qu'on ait de l'itinérance. Parfois, j'aime le dire à des grands penseurs, mais soyez heureux, nous sommes enfin une ville qui se respecte avec les services associés, avec les services de détention. C'est particulier chez nous, on évolue rapidement, notre population essaie de suivre, mais ce n'est pas évident.
Merci, Michel. Tu mentionnais la question de la professionnalisation. Tu sembles avoir introduit l'idée que peut-être qu'avec la professionnalisation chez vous, ça a augmenté, en tout cas, ou ça créait des situations où on pourrait ne pas accueillir certaines personnes parce que tu n'as pas donné les raisons. On va garder ça après. Je suis sûre que les collègues ont probablement des choses à dire là-dessus. Marie-Noël, Geneviève, tu es en plein milieu de mon écran, mais là, je dirais que Marie-Noël, parce que j'ai un faible pour la gauche en général. Et puis après, ce serait à ton tour, Geneviève. Marie-Noëlle, qu'est-ce que tu aimerais ajouter à tout ça ou relancer même un des éléments qui est déjà apparu?
Oui, ce qui est intéressant, je pense qu'on va y revenir plus tard. On se laisse avec une petite touche, on est sur notre fin, parler de changement dans la pratique. On y reviendra. J'avais envie de revenir sur au début des années 2000, on a eu à Montréal une lutte aux incivilités. Hein, tantôt, France nous a parlé de judiciarisation, c'est pas pour rien. On a eu un nombre incroyable de contraventions qui ont été données et qui ont mené à des pratiques de profilage social par la suite qui ont pu être documentées par différentes études. Et ça s'inscrivait également dans une vague de ce que mes collègues ont parlé également de « pas dans ma cour ». Une vague également du bon pauvre, celui qui se met en action. On avait le plan d'action de lutte à la pauvreté, donc beaucoup de mesures pour aider la personne qui veut s'aider et le mauvais pauvre, la personne qui ne s'aide pas. Donc, c'était un courant quand même marquant tant dans la société que dans nos politiques et ça a eu des effets, je suis convaincue, sur... l'aggravation de situations d'itinérance pour plusieurs. Il y a eu des déménagements de ressources qui ont été affectés. Je pense que France pourrait nous en reparler certainement. Et cela, je crois, donné une trame de fond pour travailler à cette époque-là, quand même bien différente. Donc, quand je dis différente, c'est qu'on doit travailler auprès de personnes qui sont des personnes à part entière, mais à contre-courant dans des prestations de services, dans des programmes qui ne cadrent pas avec la réalité. Et donc, il y avait, je crois, beaucoup de solidarité entre les travailleurs au niveau du travail de rue, entre autres. On a eu des belles initiatives, notre regroupement local aussi, où ce qu'on a pu voir l'opération Droit Devant, qui a mené jusqu'à la clinique Droit Devant aujourd'hui, pour créer le retour du balancier, parce qu'on est allé un petit peu trop loin, à mon avis, dans cette prestation de service, dans cette recherche de solutions à l'itinérance, en mettant des étiquettes à des personnes et non le voir comme une problématique plus large qui demande assurément des solutions plus complexes. Donc, voilà, je partagerai un petit peu cette trame de fond, puis je pense que ça peut expliquer assurément, la mise en place de différentes pratiques nouvelles qu'on pourrait revenir là, un petit peu plus tard sur des actions différentes pour aller offrir assurément des lieux dans l'accueil, des lieux dans le respect de la dignité et de l'intégrité, ce qui était, je pense, c'était un peu perdu.
Merci beaucoup, Marie-Noëlle. Donc, bon pauvre, mauvais pauvre, les méritants, quand moi j'étudiais, on appelait ça des pauvres méritants qui nous disaient, puis des pauvres qui ne méritaient pas. Je laisserai aller Geneviève, puis je pense que pas longtemps après, on pourrait rentrer dans les pratiques, une fois qu'on comprend justement si dans ce que vous avez dit à date, on a l'accueil inconditionnel, mais il est parfois conditionnel quand même. Il faut s'engager dans une démarche d'intervention, il faut, dans ce que vous dites, dans ce que j'entends, ce n'est pas ce que vous pensez, mais c'est ce que vous dites qui sont parfois des barrières. Geneviève?
J'essaie de reculer 30 ans en arrière. Quand je suis arrivée, en fait, j'arrivais comme travailleuse de rue au PIPQ, puis rapidement, je me suis rendu compte que le milieu de la rue était plus inclusif que les services autour. Il y a un code dans la rue. Je fréquentais les bars où les travailleuses du sexe se tenaient, puis il y avait énormément d'inclusion, d'accueil, à la limite d'accueil inconditionnel, qu'on a perdu avec la fermeture de plusieurs bars au fil des années. Il y a eu la guerre des mentors aussi à Québec, là, dans les années 90. Mais les travailleuses du sexe ont perdu quand même beaucoup d'espace. Puis là, je ne dis pas juste les travailleuses du sexe, mais les dealers de dope, les itinérants, les gens en rupture sociale ou en marge. Hein. Des fois, la rupture, ce n'est pas eux qui la provoquent nécessairement. Hein. Michel le disait tantôt, Michel Simard, les ruptures sont provoquées souvent par la manière dont on est structuré autour de ces personnes-là. Bon, on parlait de comorbidité tantôt, dépendance, santé mentale. Moi, je pense que au niveau de la prostitution, l'exploitation sexuelle ou travail du sexe, peu importe comment où on va là, dans le spectre, mais n'empêche que une des grandes conséquences de la prostitution, c'est la stigmatisation. Puis là, il y avait aussi toute les années 80, le VIH qui arrive, donc VIH, prosto, junkie, prostitution masculine, tous ces stigmates-là qui s'empilent un par-dessus les autres, ce qui fait que comme travailleurs de rue, même si on avait un mandat de mise en lien ou de pont entre la rue et les services traditionnels qu'on connaît, n'empêche que les services traditionnels qu'on connaît n'étaient pas équipés nécessairement pour accueillir ces personnes-là. Équipés pas tant en termes de compétences, mais en termes d'attitude. Énormément de jugement et d'incompréhension et de méconnaissance. Donc, moi, j'ai été heurtée à ça rapidement là, dans l'accompagnement des gens. Parce que nous autres, on avait un petit lieu d'accueil très informel, mais on n'était pas un refuge. Donc, la pratique du travail de rue, nous, c'était l'approche qu'on préconisait justement pour aller rejoindre, bon, vous connaissez le travail de rue, donc pour aller rejoindre les gens en rupture, en marge. Mais ce mandat de réconcilier ces personnes-là que tu accompagnes avec le réseau, c'est un mandat qui était, à mon avis, à cette époque-là, je dirais qu'aujourd'hui, il y a encore beaucoup d'obstacles, là, mais il y a quand même eu beaucoup de sensibilisation autour de la prostitution, entre autres. Là. Mais moi, ce qui m'a marqué le plus, c'est vraiment le milieu de la rue. Comment ce milieu-là était inclusif, était soutenant, beaucoup plus que la société dans laquelle on était à cette époque-là. Là, vous avez tellement dit de choses tantôt, là, je me disais, il faut que je prenne des notes, mais ce qui a créé aussi des ruptures, on parle à Québec, là, tu sais, nous autres, il y a eu la gentrification, là, je ne sais pas si vous avez entendu parler du Maine-Saint-Roch à Québec, mais tu sais, c'était la plus longue rue couverte en Amérique du Nord, ce qui laissait place à une mixité sociale intéressante, une faune intéressante, un ancrage aussi. Bon, avec la gentrification de Saint-Roch, c'est clair que ça a créé des fossés importants et des ruptures. Concernant la jeunesse, parce que clairement que le PIPQ est né aussi parce qu'il est né d'une recherche-action qui démontrait clairement que même les jeunes ayant victimes d'exploitation ou ayant des activités de prostitution étaient... En fait, ces actions-là, ces activités-là étaient considérées comme des troubles de comportement aux yeux des éducateurs, des travailleurs sociaux. On est loin là, de ce que c'est aujourd'hui, mais je veux dire, comment le système contribuait aussi à la rupture des jeunes, le système du centre jeunesse. Il le fait encore d'ailleurs, on en reparlera, là, mais... Ça, c'est mon cheval de bataille, la centre jeunesse. Mais, ouais, c'est ça. T'sais. Donc, la manière dont ces personnes-là qu'on accompagne sont regardées, sont considérées. Par contre, la beauté de la chose au PPQ, c'était, on parle d'approche ou de pratique, là, c'était... puis, Michel, tu parlais de professionnalisation. Moi, en 93, je suis arrivée, puis j'étais une fille ayant un parcours assez atypique, décrocheuse. Et le PIP m'a engagée quand même en valorisant finalement le savoir-être de quelqu'un, puis en ayant un potentiel d'apprendre. Puis cet élan-là vers les autres, je l'avais. T'sais. Puis ça, je me suis donné comme mandat quand j'ai pris la direction de l'organisme de jamais perdre ça. De laisser la place toujours à des gens qui ont le savoir-être, mais qui ont des parcours différents, des parcours atypiques, pas tomber dans justement la trajectoire de la norme, du cégep, du bon. Puis la professionnalisation, parfois, l'effet pervers, c'est que ça nous éloigne du lien. Et comme la pratique du travail de rue, c'est d'abord une pratique de relation, avant d'être une pratique d'intervention, on est des professionnels du lien, de création de lien. Mais là, je veux tout dire en même temps, mais je voulais aussi faire une petite parenthèse sur l'approche inconditionnelle. Moi, on a eu des échanges là-dessus intéressants au sein de mon équipe depuis les 30 dernières années. Il y en a qui refusent d'aller vers cette appellation-là d'accueil inconditionnel. Ça fait trop catho. On n'est pas des missionnaires. On n'est pas Thérésa de Calcutta. Mais en même temps... mais en même temps, l'accueil qu'on a auprès des gens, à mon avis, est là en partie inconditionnelle. Elle est critique aussi. T'sais. Je pense qu'il ne faut pas... c'est pas parce qu'elle est critique ou elle est empreinte de jugement des fois, cet accueil-là qu'on a, qu'elle n'est pas inconditionnelle. Il reste que ce qui est inconditionnel, c'est que je vais t'accueillir de la manière dont tu vas t'auto-déterminer, tu sais, de la manière dont tu es, donc tu t'identifies. Tu sais. Pour moi, l'accueil inconditionnel, c'est ça. C'est pas tant dans les comportements, nécessairement. Tu sais. Fait que, ben, je vais laisser la parole, je vais clore.
Merci Geneviève. Je laisserai, je vois que France aimerait ajouter quelque chose.
Mais parce que je reviens justement à le fameux accueil inconditionnel. C'est sûr qu'au début, il y avait quelque chose de judéo-chrétien aussi. Puis, tu sais, quand on parlait Monseigneur, je ne sais pas, Monseigneur qui, là. Puis à Montréal, ben, la Maison du Père, toutes les missions, même les maisons de langue, c'était religieux. Puis, fait qu'on était aussi dans un discours d'accueil religieux, puis de bonté. Puis là, ça s'est un petit peu dilué, tout ça. Mais le fameux accueil inconditionnel, à un moment donné, il y a des jeunes qui nous disent, ben voyons donc, arrêtez de dire que c'est inconditionnel. Vous avez des heures d'entrée, des heures de sortie. On ne peut pas consommer à l'intérieur. Alors, ils ont pondéré cette affaire-là. Et puis tantôt, on va sûrement reparler du haut seuil et du bas seuil. Notre vocabulaire change. Puis c'est peut-être tantôt que je vais me choquer sur l'hypocrisie du haut seuil, là, les parkings nouveaux genres. Fait que m'attendre de me choquer tantôt, me choquerai pas trop vite.
J'appelle ça des enclos. Appelle pas ça des parkings, appelle ça des enclos.
Au nom du haut seuil et de la tolérance et de tout ce qu'on voudra. Fait que, puis, et nous, on était à Montréal, souvenons-nous, ben Michel, tu vas t'en souvenir, toi même si ce n'était pas à Montréal, le traumatisme de dernier recours.
Hein? Je m'en souviens bien.
Tu t'en souviens? Là, on parlait d'acceptation inconditionnelle. Ça commençait par être un centre de référence à Montréal, donc ça rue Sanguinet. Il y avait 2-3 personnes par jour qui y venaient. Puis après ça, je regardais les chiffres récemment. 1988, 10 960 personnes qui ont couché là, sur le sol, dehors, à l'intérieur. Des personnes gisantes qui étaient là, laissées à elles-mêmes, dans leur urine. Puis je me souviens très bien parce que j'étais au RAPSIM aussi, puis on était allé voir sur place ce qui se passait. Et il y a un article de journal, « Ils gisent gelés ou ivres sur le plancher ». Des intervenants disaient, « On ne peut jamais tourner le dos ». Il y avait 6 visites de policiers par jour. Puis là, ben, c'était les années SIDA, la dope, les seringues. Moi, je me souviens aussi, on avait des jeunes qui se rendaient là, qui allaient rencontrer le dealer là, qui se dégradaient sous nos yeux, les gars de la maison du père qui allaient rester là, qui quittaient leur chambre. Donc, c'était là, ça a été l'apocalypse, le réseau a implosé, on s'est chicané. Alors, c'est au nom de l'accueil inconditionnel, finalement, on a fait n'importe quoi. Fait que, alors, et qu'est-ce qu'on a appris de ça? Je me le demande quand je regarde ce dont on va parler tantôt, certaines créatures là, avec des gardiens de sécurité, puis T'sais, qu'est-ce qu'on est en train de faire? Je me dis, mais on a-tu appris là? Alors, fait que l'accueil inconditionnel, ça ne veut pas dire de parquer beaucoup de personnes qui sont en situation de souffrance, d'exclusion, et de les regrouper justement comme dans des enclos, dans des hôtels. C'est pas ça l'inconditionnalité. Je reviens à ce que Marie-Noëlle disait, c'est toutes les questions d'humanité, de pas de regard condescendant, mais de bienveillance, de j'ouvre la porte, je vais pas te taguer là, psychotique des premières minutes. Là, puis, mais là, je trouve qu'on est il y a d'autres dérives vers lesquelles on s'en va au nom de quoi? Au nom du fait qu'il n'y en a pas de ressources. Puis en 88, durant l'année internationale des sans-abri, je regardais là, dans les différents textes, on disait qu'il n'y avait pas de logements sociaux, on n'avait pas d'argent, l'aide sociale c'était insuffisant, on parlait de ressources manquantes. Et 35 ans plus tard, on dit encore, on fait encore les mêmes constats. La pauvreté, le manque de ressources, puis on ne parlait pas nécessairement des problématiques là, comme telles. Mais puis on commençait à parler un petit peu là, d'exclusion. Puis et ça, c'était là, dans le verbatim. Puis là, on commençait à voir les jeunes, puis et voir une espèce là, d'explosion. Là, on a commencé à vouloir compter, là. Parce que là, c'était important de compter.
Mais France, oui. Ce que tu dis, en fait, tu dis que tu ne voulais pas te choquer, tu t'en viens bien.
Je ne réussirai pas.
Non, mais ça t'en vient bien. Parce qu'en fait, vous nous amenez justement sur toutes ces questions entre l'accueil inconditionnel, un peu qu'on a lié à quelque chose qui est judéo-chrétien, entre les pratiques d'accueil inconditionnel qui ne voulaient pas dire la même chose pour tout le monde. Et peut-être qu'on serait rendu justement à parler des pratiques, mais encore une fois, je ferai un petit aparté parce que vous m'avez réveillé un souvenir, surtout toi, France. Nous, à l'Auberge Madeleine, ça faisait 2 ans qu'on était ouvert, puis on voyait que les femmes qui avaient des problèmes de santé mentale allaient à Saint-Luc, qui nous les retournaient. Là, elles allaient au Chaînon, elles allaient à Maison de l'Ancre, elles ne pouvaient pas rester parce qu'elles arrêtaient de prendre leurs médicaments. Fait que ces femmes qui arrêtaient de prendre les médicaments, elles ne voulaient pas de traitement. C'était comme ça. Réfractaire au traitement, c'était le gros mot. Alors, à l'auberge, nous autres, on était beaucoup dans cette idée d'accueil inconditionnel. On avait un 3e étage, 6 chambres. On s'est dit, tiens, plutôt que de les voir faire la porte tournante, on va avoir nos 6 chambres. Elles n'ont pas besoin de prendre leurs médicaments. Elles n'ont pas besoin d'aller voir le psychiatre. Elles n'ont pas besoin de rien. Je vous laisse imaginer qu'est-ce qui est arrivé au 3e étage à un moment donné. Il y avait une espèce de naïveté, puis on a retravaillé ça, puis il est sorti des bonnes choses de ça. Mais c'était effectivement là, des visions qui étaient... Il y avait beaucoup de bonnes intentions. Fait que il y a des fois, là, on dit que l'enfer en est pavé. Peut-être passer aux pratiques, est-ce que quelqu'un aimerait nous amener sur les pratiques qui pourraient être des pratiques développées dans vos milieux ou ailleurs pour les personnes, quand on s'inspire d'une... Peu importe d'où elle vient, là, d'une idée d'accueil inconditionnel.
Oui, Michel, là,
c'est mort.
Peut-être la première chose, je dirais que pour moi, c'est devenu assez clair que l'accueil inconditionnel, ça n'existe pas au niveau d'un service. C'est une attitude d'ouverture du cœur, de l'esprit, à respecter une personne dans ce qu'elle est comme personne. Et donc, c'est l'opposition de stigmatiser quelqu'un, de l'identifier à ses problèmes. Et ça doit être inconditionnel. Mais un service comme tel, c'est jamais inconditionnel. Sinon, c'est une catastrophe monstrueuse. Tu vas avoir des gens qui vont exploiter d'autres personnes, qui vont les agresser. Puis toi, tu vas dire, c'est correct, on accueille tout. Ça fait comme dernier recours. Là. C'est catastrophique. Donc, on peut pas, on peut pas faire l'économie du développement du discernement au sein de la pratique, des risques et des façons de faire qui gèrent ces risques-là lorsqu'on est avec des situations où il y a beaucoup de désorganisation chez une personne, que ce soit mentale ou c'est qu'elle vit des manques ou d'être complètement intoxiquée. Ce travail-là est très exigeant. Et au niveau de la pratique, une des choses que, d'abord, moi je pense qu'il faut distinguer les milieux dans lesquels les pratiques s'inscrivent. Parce que si tu fais du travail de rue, ou tu travailles dans un centre de jour, ou tu travailles dans des logements, ou tu travailles dans un refuge, c'est pas le même contexte, là. Et tu peux pas avoir le même discernement. Si tu travailles dans, tu sais, dans un refuge ou dans un hébergement d'urgence, ben les gens sont là sur place, t'en as d'autres et tu dois vivre avec ça, là. Okay? Alors, ça suppose c'est d'autres paramètres de service. Et bon, une fois qu'on a dit ça, moi, j'ai travaillé beaucoup à développer une pratique au sein de quelque chose que j'ai appelé l'hébergement d'urgence. Parce qu'au début, je gérais un refuge de nuit sur le mode traditionnel. Puis, bon, moi, j'accueillais peut-être à peu près pas loin de 50 % des gens avec des problèmes de santé mentale graves, finalement. T'sais, puis là, je prenais conscience que je les remettais à la rue le lendemain matin. T'sais. Puis là, ils revenaient le soir. Puis un jour, ben, tu sais, je me suis dit, ben, finalement, je les aide à rester dans la rupture sociale, tu sais, puis c'est bien correct, là, mais je fais probablement partie du problème, tu vois. En tout cas, moi, je l'ai vécu comme ça. Je me dis, comment on peut faire autrement, tu vois. Et donc, j'ai dit, bon, on va garder les gens. Puis si je garde les gens, ben, ça me prend du monde pour s'en occuper. Puis là, j'ai des intervenants. Puis, et là, après un certain temps, je prends des raccourcis, je me suis rendu compte que les intervenants, ils étaient formés pour vouloir que les gens s'en sortent. Donc, ils étaient formés dans un modèle qu'on appellerait de réhabilitation ou de réadaptation psychosociale, où l'intervenant veut que la personne arrête de boire, puis son objectif, c'est qu'elle arrête, ça peut prendre du temps, mais, ou s'il est malade, bien, qu'il prenne ses médicaments, puis etc. Alors, je me suis dit, ça fait partie du problème. C'est une pratique qui est inadaptée à une situation de vie où, qui vise à accueillir les personnes qui sont les plus désorganisées, les plus vulnérables, puis qui finalement, qui sont pas dans une démarche de réadaptation, de réhabilitation. On est plus dans un cadre qu'on pourrait appeler d'urgence. Donc, on a à répondre à des impasses dans lesquelles les individus vivent qui ne nécessitent pas que les gens veulent prendre des médicaments ou arrêtent de consommer, mais ils veulent avoir un chèque ou ils veulent avoir un logement ou tu sais, ils veulent pas dormir dehors à soir, bon, puis etc. Donc ça, c'est une pratique bien différente qui dans un cadre d'hébergement où on aide et accompagne des gens sans avoir comme exigence qui suivent certains parcours, certains objectifs. Et alors, ça, pour moi, ça a eu comme deux volets. Un premier volet qui est développer non plus un service que j'appelais un service hôtelier pour des gens qui n'ont pas d'argent. C'est un peu le modèle du refuge de base, c'est-à-dire tu offres un lit pour la nuit pour des gens qui, de toute façon, n'ont pas d'argent pour louer un motel ou un hôtel, puis tu gères de la place. Puis les institutions, CLSC ou les autres, vont t'appeler et dire « Avez-vous de la place? » Puis si tu n'en as pas, ben là, il y a un problème, tu ne joues pas ton rôle. Tu sais. Alors moi, j'ai commencé à dire « Non, je ne suis pas un hôtel. » Tu sais. Donc, on gère un processus d'intervention comme à l'urgence de l'hôpital, on ne gère pas des civières, tu sais, mais on gère un processus d'intervention. Puis c'est un processus d'intervention qui a une résolution de problème pour les gens, parce que quand ils arrivent, ils ont des problèmes à résoudre. Ça ne correspond pas nécessairement à ceux qu'on aimerait qu'ils règlent, par exemple prendre leurs médicaments, mais ils ont tout de même quelque chose à régler. Et l'autre volet, puis je terminerai là-dessus pour pas en dire trop, c'est la conscience de l'importance de développer l'accompagnement, c'est-à-dire le lien avec la personne. Parce que la vie relationnelle, c'est l'oxygène de l'âme, c'est l'oxygène de l'esprit. Si tu sors de la vie relationnelle, tu rentres dans l'angoisse. Alors, de rétablir ce lien-là avec les personnes, ça les aide à se reconnecter avec qui ils sont. Et pour ça, c'est pas nécessaire d'avoir des résultats. Il y a ce volet-là qu'on peut pas non plus ignorer, en tout cas pas dans un contexte d'hébergement d'urgence. Les gens, ils ont des choses qu'ils veulent régler. Ils doivent passer en cours, par exemple, puis ils ont des démarches à faire. Et ils n'ont pas de revenus, puis il faut qu'ils fassent des démarches. Fait que, il y a tout un ensemble de résolutions de problèmes. Mais s'il y a juste ça, l'essentiel n'est pas là. Parce que les gens, ils n'ont pas juste des problèmes, ils sont comme déracinés d'eux-mêmes, puis de la vie. Et de reconnecter avec eux, recréer du lien avec eux, ça leur redonne ce qui est essentiel pour que ça puisse avoir un sens pour eux de dire « bon, ben, je vais avoir un revenu okay, » ou « je ne me suiciderai pas ». Okay? Parce que c'est ça qui est souvent en arrière-plan de l'itinérance. L'itinérance, souvent, je la vois comme une stratégie de survie qui protège la personne, tu sais, de l'idée du suicide, tu vois, ou de quelque chose de plus grave.